Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Micro Blaise Ndani Kambala. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Accord sanitaire RDC-USA, un partenariat de plus d'un milliard de dollars américains dans un mémorandum d'entente qui prévoit un investissement conjoint, 900 millions de dollars apportés par les États-Unis et 300 millions mobilisés par les gouvernements congolais. Nous irons ensuite en Ituri pour parler de ces lourdes peines infligées à 30 détenus à Arou par les tribunaux militaires de garnison de l'Ituri, siégeant en chambre foraine à Arou Centre, une localité située à environ 300 km de Bunia. Au Nord Kivu, l'ONG SAV vient de révéler, à l'issue d'une enquête menée durant un mois à Goma et Sake, qu'environ 2160 élèves ont quitté 14 écoles en l'espace d'un an. Les effectifs à l'espace d'une année ont donc connu une baisse de 28%. Quelles mesures pour freiner cette déperdition scolaire? Pour en parler, nous recevons Espoir Kikuni, le coordonnateur de cette ONG. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bonne journée dominicale à tous. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé jeudi à la primature la cérémonie de signature des mémorandums d'entente relatifs au cadre bilatéral de coopération sanitaire entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui des États-Unis d'Amérique, doté d'un financement global de 1,2 milliard de dollars américains, dont 900 millions apportés par le gouvernement américain et 300 millions mobilisés par le gouvernement congolais. Cet accord traduit la volonté affirmée des deux pays de renforcer durablement le système de santé congolais. Jude Mister Bilanda pour les détails.
Cet accord représente bien plus qu'un engagement administratif. Il exprime notre responsabilité envers nos concitoyens. Il renforce notre capacité à assurer la protection sanitaire de notre pays, a déclaré Judith Suminwa, chef du gouvernement de la RDC. Ce mémorandum permettra de renforcer la lutte contre les VIH-Sida, la tuberculose et les paludismes, d'améliorer la santé maternelle et infantile, de poursuivre l'éradication de la poliomyélite, d'intensifier la surveillance épidémiologique, de consolider les capacités du personnel de santé et de renforcer la préparation face aux urgences sanitaires. Pour Yann McCurry, représentant de l'ambassade des États-Unis, cet accord à la fois pragmatique et ambitieux marque le passage d'une assistance traditionnelle à une collaboration fondée sur la responsabilité partagée. Ensemble, nous visons à sauver des vies, à renforcer la sécurité sanitaire de nos deux nations et à bâtir un système de santé résilient et autosuffisant en RDC, a-t-il souligné. À travers cet accord, la RDC traduit la volonté de prendre pleinement en charge ses priorités sanitaires et de progresser vers la couverture santé universelle.
Et puis, le parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, ANS, dirigé par Norbert Basengezi Kantitima, se félicite du retour de la MONUSCO à Uvira pour superviser le respect du cessez-le-feu et la cessation des hostilités. Position exprimée ce samedi 28 février à Kinshasa par le secrétaire général du parti, Jacques Kabé, à l'occasion de la cérémonie de rentrée politique. Le parti politique ANS appelle par ailleurs à la mise en œuvre de la résolution 2773 de l'Organisation des Nations Unies qui condamne fermement l'offensive du M23 dans l'est de la RDC ainsi que les soutiens extérieurs, notamment rwandais, dont bénéficie ce mouvement. Jacques Kabé, secrétaire général du parti Alliance des Nationalistes pour un Congo émergent, au micro de Radio Kapi.
Nous soutenons le processus de Washington qui vient renforcer nos relations économiques. L'ANC s'inscrit dans le cadre de la paix et non de la guerre et soutient tous les processus pouvant nous amener la paix et le développement dans notre pays. L'ANC demande l'application de la résolution 2773 de l'ONU, cadre où tout le processus de paix dans la sous-région est clairement défini. Salue le retour de la MONUSCO à Uvira pour observer le cessez-le-feu et la fin des hostilités et propose au gouvernement à former une armée de réservistes et des cadets envie de faire éclore l'esprit du patriotisme et d'élitisme au sein de nos forces de défense et sécurité de le bas âge.
En Ituri, 30 détenus ont été condamnés, dont certains à la peine de mort, par les tribunaux militaires des garnisons de l'Ituri qui siégeaient en audience foraine à Aro-Centre. C'est une localité située à environ 300 km de Bounia. Ces audiences, appuyées par la MONUSCO, se sont achevées jeudi par le retour des juges et magistrats à Bounia vendredi. Elles visaient à mettre fin aux détentions irrégulières et prolongées et à désengorger la prison d'Aro qui compte 158 détenus pour une capacité de 75 places seulement. D'autres précisions avec Jean-Claude Lokidile.
Du 16 au 25 février, le tribunal a prononcé 30 condamnations concernant des prévenus présents à l'audience et 43 condamnations par défaut à la suite d'évasion ou de libération jugée injustifiée des détenus dont les affaires étaient déjà fixées. Parmi les 30 condamnations figurent notamment 11 cas de viol, 11 meurtres, 6 vols qualifiés ou encore un cas de détention illégale d'armes. Les peines prononcées vont de 3 ans d'emprisonnement à la peine de mort assortie, selon les cas d'amende, de frais de justice et de dommages et intérêts au profit de 12 parties civiles. Par ailleurs, 17 personnes ont été acquittées pour insuffisance de charges ou au bénéfice du doute. 6 dossiers ont été renvoyés, le tribunal s'étant déclaré incompétent pour les instruire. Enfin, 13 actions publiques ont été éteintes à la suite du décès des prévenus. Dans les 43 dossiers jugés par défaut, le tribunal a appliqué les peines maximales et ordonné l'arrestation immédiate des condamnés. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Justice encore, le tribunal des grandes instances de Kananga a clôturé ce vendredi 27 février à la prison centrale les audiences foraines en matière répressive portant sur des cas de viols sur mineurs. Sur les 13 accusés, 9 ont été reconnus coupables et condamnés par les tribunaux. Ils ont été arrêtés grâce au concours de l'ONG Amour Plus qui a constitué les dossiers et orienté les victimes vers une prise en charge juridique. D'autres détails avec André Katende Ngalamulume.
Les 9 condamnés écopent des peines de servitude pénale de 2, 3 et 4 ans. Ils devront également s'acquitter d'amendes compris entre 2 et 4 millions de francs congolais. Les autres prévenus, en revanche, sont acquittés pour insuffisance des preuves. Les dossiers ont été constitués par l'ONG Amour Plus RDC dans le cadre d'un projet d'appui à l'autonomisation des filles et au renforcement de la résilience des communautés. Ces programmes visent à prévenir et à lutter contre les violences sexuelles dans la province du Kasaï central, en particulier dans les territoires de Luisa. Grâce à ces procès, les victimes ont pu accéder à la justice après avoir longtemps souffert en silence. Ces audiences foraines ont bénéficié de l'appui technique et financier de l'UNICEF avec le soutien du gouvernement norvégien. La tenue de ces procès constitue une étape importante dans la lutte contre l'impunité et envoie un signal fort en faveur de la protection des droits des enfants et des jeunes filles au Kasaï central. Kananga, André Katendenga Lamouleme, Radio Okapi.
Restons au Kasaï central, clôture vendredi à Kananga du Forum national des leaders communautaires sur la lutte contre les violences basée sur les genres et la promotion de la masculinité positive. Cette rencontre de 3 jours était organisée par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral FMD avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD grâce au financement du Canada. Ce forum a constitué un cadre stratégique d'échange et de partage d'expériences en vue d'une mobilisation collective en faveur de la dignité, de l'égalité et de la protection des femmes et des filles. Les participants ont formulé plusieurs recommandations à l'endroit des gouvernements nationaux et provinciaux ainsi que des acteurs engagés dans la lutte contre les VBG. Suivez ces recommandations lues par Jean-René Chimanga.
Que le gouvernement national appuie les structures de lutte contre les VBG, d'autres territoires et les provinces de l'espace Kasaï dans la mise en place des politiques de la masculinité positive. Que l'Assemblée provinciale octroie une ligne budgétaire pour la vulgarisation de l'édit portant interdiction des coutumes avilissant la femme et la jeune fille. Que le partenaire technique et financier appuie suffisamment les structures de lutte contre les VBG et celles de la masculinité positive pour favoriser une bonne continuité des actions. Que les leaders coutumiers et religieux s'engagent dans la déconstruction des normes sociales toxiques et dans la lutte contre les VBG. Que les organisations de la société civile mettent en place des clubs de discussion au sein des communautés pour pérenniser les actions de lutte contre les violences basées sur le genre.
Retour dans la capitale. L'intersyndicale nationale fustige l'arrestation depuis le début de cette semaine de l'un de ses membres et président de la délégation syndicale de l'office de route à Foyo, à Bounia, dans la province de l'Ituri. Dans un entretien accordé ce samedi à Radio Kapi à Kinshasa, le coordonnateur adjoint de cette structure, Guy Koukou, qualifie cette arrestation d'arbitraire et s'indigne qu'un civil soit détenu dans un cachot de l'auditorat militaire. Il condamne fermement cet acte et appelle à sa libération sans autre forme de procès. Guy Koukou au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Monsieur Afoyo, il est arrêté parce qu'il a écrit une lettre à la première ministre. Dans cette lettre-là, il dénonçait le gouverneur de la province de l'Ituri qui voulait les délocaliser de leur site de travail pour les envoyer à un autre site périphérique où ils estiment qu'ils seront en insécurité. Et c'est tout ce qu'on lui reproche. Nous demandons la libération immédiate de ce camarade parce que d'abord, il n'a commis aucune infraction. Écrire à la première ministre, ce n'est pas une infraction. Et si Monsieur le gouverneur pensait qu'il était lésé, il ne peut pas arrêter. Je vous informe que le monsieur est arrêté depuis le lundi 22 février, au moment où nous sommes en train de parler. Le monsieur a fait 6 jours dans les geôles de l'auditorat militaire et selon les rapports qu'on m'a fait ce matin, on lui demande 4 000 $ pour sa libération. Dans un état de droit, on ne peut pas procéder à des arrestations des syndicalistes. Ce sont des pratiques qui ne peuvent pas avoir lieu dans un état démocratique. On ne peut pas, pour une lettre qu'on a écrite à une autre autorité supérieure, arrêter quelqu'un, les manmêler, les torturer et les mettre à la disposition des militaires comme si c'était un criminel.
Contacté, le porte-parole de l'armée en Ituri, lieutenant Jules Ngongo, indique que ces syndicalistes auraient tenu des propos diffamatoires contre le gouverneur de la province dans une correspondance adressée à la première ministre. Cet officier militaire souhaite que cette affaire puisse suivre son cours normal et que les responsabilités soient établies. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la lutte contre l'insécurité nutritionnelle en province de la Tchopo, où un vaste projet de prévention contre la malnutrition a été officiellement lancé jeudi dernier grâce à un appui d'Enabel, agence belge de coopération internationale dans la zone de santé d'Isangi. Cette activité marque ainsi une offensive majeure pour la santé des populations vulnérables, notamment les enfants. Les points avec Jacques Moukonkole.
Ce programme de nutrition n'est pas un cas isolé. Il constitue le 4e volet d'une série d'interventions stratégiques bénéficiant de l'appui technique et financier d'Enabel. Ce partenariat témoigne de l'engagement continu de la coopération internationale aux côtés des autorités sanitaires en faveur des communautés locales, déclare son manager Prosper Ntema. Le lancement de ce projet répond à une nécessité de terrain alarmant. Selon les conclusions d'une enquête menée par Enabel en novembre dernier, le taux de malnutrition dans la zone est évalué à 12%, un chiffre préoccupant qui a poussé le partenaire à agir. Ce projet va permettre de transformer durablement les mentalités des populations locales, souligne le médecin-chef des zones de santé, Charles Koimoke.
Il y aura des formations, il y aura l'organisation de la communauté, des diagnostics communautaires, jusqu'à amener cette communauté-là et même à élaborer leur plan d'action communautaire de lutte contre la malnutrition. Et Enabel va les aider à donner les moyens pour qu'ils mettent en œuvre les plans qu'eux-mêmes la communauté ont élaboré pour lutter contre la malnutrition. C'est vraiment une approche qui est préventive. Donc on va leur donner des enseignements pour prévenir la malnutrition.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Comment préparer sa retraite? C'est l'un des programmes de la coopérative agricole Bilanga ya Betu pour l'année 2026. Annonce faite à Kinshasa par Serge Mbaye, coordonnateur de cette structure au cours d'une cérémonie d'échange de vœux organisée ce samedi 28 février au centre de rééducation pour handicapés physiques. Ce programme vise à former les retraités et les pré-retraités à entreprendre dans l'agriculture. On écoute à ce sujet Serge Mbaye, coordonnateur de Bilanga ya Betu au micro de John Chibobo.
2026, c'est l'année de la pomme de terre. Nous envisageons de redynamiser la filière pomme de terre au Congo central, mais dans d'autres provinces aussi comme le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, province du Tanganyika, partout où se trouvent nos membres et partout où la pomme de terre peut pousser. Je pense que nous y serons en 2026. Nous avons d'autres programmes pour les pré-retraités et les retraités. Comment commencer à préparer sa retraite pour finir sa carrière professionnelle comme entrepreneur agricole? Comment faire cette reconversion? Donc, il y a un programme Bilangabe tout jeune pour leur donner l'amour, communiquer cette passion de l'agriculture. Donc, il y a un certain nombre de nouveaux programmes qui font de 2026 une année assez ambitieuse.
Actualité internationale.
La télévision d'État iranienne a confirmé la mort de l'ayatollah Khomeini, le guide suprême de la République islamique d'Iran, dans la nuit du samedi 28 février au dimanche 1er mars. Son décès à l'âge de 86 ans avait été annoncé quelques heures plus tôt par le président américain Donald Trump après des frappes menées par les États-Unis et Israël sur l'Iran.
L'invité.
Au Nord-Kivu, l'ONG Secours aux Vulnérables et SAV vient de révéler, à l'issue d'une enquête menée durant un mois à Goma et à Sake, qu'environ 2160 élèves ont quitté 14 écoles en l'espace d'un an. Les effectifs sont passés de 9970 élèves en décembre 2024 à 7680 en décembre 2025, soit une baisse de plus de 28%. Quelles mesures pour freiner cette déperdition scolaire? Élément de réponse avec Espoir Kikuni, coordonnateur de SAV au micro de Bernadette Nyangi.
Monsieur Kikuni Moussagi, bonjour.
Oui, bonjour messieurs les journalistes.
Quels sont d'abord les tout premiers résultats de cette recherche-là?
La recherche a été menée sur un ensemble de 7688 élèves dans 14 écoles, dont 9 dans la commune de Goma. Il y a 4 écoles du territoire de Niragongo et il y a une école dans la cité de Sake. Nous avions trouvé un taux global d'abandon de 2162 élèves, soit 28% de cas d'abandon, répartis en 1141 filles qui ont abandonné, soit 52,72%, et 1021 garçons, qui va là à 47,2%. Aussi, nous avions essayé de dégager les cas de vulnérabilité de ces élèves. Au total, nous avions identifié 1023 enfants orphelins et vulnérables. De ces enfants, il y a 441 orphelins de père, 114 orphelins de mère, 66 orphelins de père et de mère et 473 enfants ici des ménages extrêmement vulnérables, 64 enfants vivants avec handicap.
Vous avez parlé d'une déperdition de 2162 écoliers, oui, comparativement aux statistiques de fin 2024. Qu'est-ce qui peut justifier cette déperdition?
Parmi les facteurs, il y a eu d'abord manque de fournitures scolaires lors de la rentrée scolaire, étant donné que ces enfants, certains sont séparés, les autres ne sont pas en mesure de se procurer même un soulier pour revenir à l'école. Il y a aussi des difficultés de paiement des frais scolaires. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu dans la ville de Goma et ses environs les retours de la prime aux écoles primaires. Il y a eu aussi les problèmes de l'insécurité alimentaire. Un enfant ne peut pas venir à l'école et s'il a passé 2 ou 3 jours sans mettre quelque chose sous la dent. Il y a aussi des conditions d'hygiène précaires. Les enfants sont totalement sales, vous le voyez. La famille n'arrive pas même à autoriser l'enfant d'aller à l'école sous cette situation-là très précaire. Il y a aussi les traumatismes psychologiques. Les enfants sont traumatisés, certains qui ont vu séparés de leurs parents étaient succombés à leur présence. Les enfants n'arrivent pas à digérer cette situation. Il y a aussi l'instabilité familiale.
Et qu'est-ce qui peut justifier cette rupture brusque, qu'il n'y ait plus de gratuité?
Cette question est politique et nous sommes apolitiques. Les constats que nous avions trouvés sur terrain, c'est ce que nous venons de présenter.
Qu'est-ce que vous prenez comme différence entre les enfants vulnérables et les autres qui sont orphelins?
Nous considérons un enfant vulnérable ici, c'est par exemple un enfant qui reste dans une famille d'accueil. L'enfant était à Goma avec ses parents, mais d'un coup, les parents étaient partis et l'enfant était dans l'obligation de rester ici pour étudier. Mais dans quelles conditions que cet enfant étudie? Il y a aussi d'autres enfants qui, jusqu'ici, ils ne savent pas où se trouvent ses parents. Ces enfants passent la nuit parfois dans des églises. Lorsque l'église veut faire la matinale, les enfants doivent quitter, Allez-y, comprendre tous ces problèmes-là, ça ne permet pas que l'enfant soit concentré à l'école.
Ce cas-là, vous l'avez observé où?
Nous les avions observés surtout dans les écoles aux alentours d'Ika. Nous parlons des écoles Eperutoboko, Epe Enyabushongo. Nous avions parlé aussi de Epe Tanganyika, Epe Mugunga. Si vous regardez le soir, vous passez aux alentours, les petits que vous allez voir là-bas, ce sont des élèves. Après l'école, ils restent là-bas et la nuit, vous allez vous rendre compte, les églises hébergent ces enfants.
Quelles peuvent être les mesures d'atténuation par rapport à tout ça?
Nous avions profité de lancer déjà un message, un SOS, aux personnes qui peuvent être touchées par cette situation, de voir comment ils peuvent s'impliquer pour trouver solution à ces problèmes. À part ça, l'organisation a cherché à mettre une équipe spécialiste, le psychologue, et nous avions formé aussi les assistants psychosociaux. Et ici, nous avions pris les enseignants des écoles, nous avions pris les membres des communautés, des églises, nous les avions formés sur le premier secours psychologique. Mais à la communauté aussi, nous avions initié ce que nous avions appelé le parcours de générosité, de voir chacun dans ses limites, comment il peut venir en aide un seul enfant pour que cet enfant étudie. À part ça, nous arrivons auprès des enfants, nous les détraumatisons d'abord, nous les ramenons dans ce que nous appelons la reconnexion, appelés à vivre avec les traumatismes. C'est-à-dire quoi? Jusqu'ici, rien n'assure que la situation va se terminer. Mais l'enfant doit étudier parce que son âge avance. Nous faisons cette prise en charge.
Monsieur Kikuni Espoir, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
C'était notre invité, Espoir Kikuni, qui s'entretenait avec Bernadette Nyangui, et c'est ce qui met fin à notre journal dominical du matin. Ce journal a connu la coordination et la supervision éditoriale de Jude Mister Bilanda Kumar et mise en ordre des mains de maître par Alain Goy. Vous pouvez réécouter ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net.